Tranche de vie, une émission proposée par JF.
J'ai dans l'œsophage un anthropophage qui avait dans l'idée de m'empoisonner. Il disait, petite tête, ôte-toi de la cuimette, je me suis résigné à le bouffer le premier mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam.
Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir en étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme, la tête de l'homme qui a faim. Quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin, une tête couleur de poussière, ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête l'homme, il n'y pense pas. Il songe, il imagine une autre tête, une tête de veau par exemple avec une sauce au vinaigre, ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mémoire et, doucement, il grince des dents. Car le monde se paye sa tête et il ne peut rien contre ce monde. Chers auditeurs de Tranche de vie, si j'ai choisi d'introduire cette émission par le poème de Jacques Prévert qui s'intitule ironiquement La grasse matinée, c'est parce que je me trouve aujourd'hui dans les locaux d'une organisation qui entend lutter contre le scandale qui veut que dans notre pays chaque habitant jette 20 kilos de nourriture par an alors que 4 millions d'entre eux sont contraints de recourir à l'aide alimentaire. Je suis dans les locaux de la Banque alimentaire et René Le Goff, son président, Banque alimentaire de Dordogne, bien entendu, a accepté de répondre à nos questions. René Le Goff, bonjour. Est-ce que nous dire, d'abord, quel est votre passé professionnel et comment vous en êtes arrivé à devenir le président bénévole de la Banque alimentaire de Dordogne?
Merci Jean-François. Alors, première réaction, d'abord, avant d'entrer sur avant de répondre à cette question, merci pour le choix du poème de Prévert, c'est bien cela. Hein. Effectivement, bon, je crois qu'il résume très bien, malheureusement, la difficulté actuelle que rencontrent certaines personnes. Alors, plus pour ce qui me concerne, j'ai un passé professionnel très diversifié, à la Saïta, à l'Oniflore pour les primes communautaires des fruits et légumes, l'informatique, voilà, j'ai extrêmement diversifié. Et à la retraite, donc, j'avais une formation en informatique, en gestion, une formation également en agroalimentaire. Donc, si vous voulez, j'ai eu envie de mettre un peu toutes ces compétences et toutes ces formations au service de la Banque alimentaire, parce que voilà, ça correspond un petit peu à un profil que je possède et puis aussi mais qu'est-ce que vous voulez arriver à la retraite je sentais que je pouvais encore être actif.
Voilà. Vous auriez pu vous contenter d'être un bénévole de base de la Banque alimentaire. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter ce poste de direction de la Banque alimentaire qui est probablement extrêmement prenant?
Indiscutablement prenant, je ne peux qu'être d'accord, et vous n'êtes pas le seul, parce que vous savez, ma famille dit aussi que je suis beaucoup à la Banque alimentaire, ce qui est vrai. C'est vrai que, alors, être bénévole de base, bon, de toute façon, être bénévole de base, c'est être bénévole à part entière. Alors, après, il n'y a pas trop de distinction chez nous, à la Banque alimentaire, entre les bénévoles qui accomplissent des tâches répétitives ou nécessaires à la logistique, et celles qui sont en charge de la gestion. Ça, pour chez nous, il n'y a pas de distinction hiérarchique. Moi, de toute façon, c'est les événements qui ont conduit à ça. Quand je suis rentré en bénévolat à la Banque alimentaire en 2010, il y avait des lacunes, des vacances au niveau de la comptabilité, de la gestion, de l'informatique, de l'hygiène et sécurité alimentaire. Voilà, donc j'ai été amené à prendre pas mal de responsabilités dans tous ces sens-là. Et donc, c'est presque très naturellement que je me suis dirigé vers la présidence quand elle a été vacante.
Voilà, il vous est arrivé ce qui arrive à tous les bénévoles, c'est-à-dire que plus vous en faites et plus on vous en demande. Alors, avant de passer à l'examen de tous les aspects de l'activité de la Banque alimentaire de Dordogne, on va essayer de dialoguer un petit peu en partant des données nationales de cette énorme organisation, de ce qu'on a pu définir, ce qu'on doit définir dans le site national de l'organisation comme une formidable chaîne logistique et solidaire. Donc nous allons citer quelques chiffres et je vous demanderai de nous situer la Banque alimentaire de Dordogne par rapport à ces données nationales. La Banque alimentaire nationale, c'est une fédération de 79 banques alimentaires et de 23 antennes. C'est-à-dire, on a en France 102 organisations qui constituent la Banque alimentaire. C'est 100 000 tonnes de denrées distribuées pour une valeur de plus de 300 millions d'euros. Et ces denrées alimentaires, elles sont collectées, triées et distribuées par les constituants de la Banque alimentaire à 5300 associations et organismes sociaux, le tout pour près de 2 millions de bénéficiaires qui en reçoivent 200 millions de repas. Donc tous ces quelques chiffres vous donnent une idée de l'importance du travail qui est accompli par cette organisation. Alors, René Le Goff, comment se situe la Banque alimentaire de Dordogne par rapport à l'organisation nationale ?
Ben écoutez, merci pour tous ces chiffres. La Banque alimentaire de Dordogne est une petite banque alimentaire par rapport à certaines zones urbaines que sont la Gironde, le Lyonnais, Clermont-Ferrand, etc., Paris, bien sûr, Île-de-France. Nous, par rapport à 100 000 tonnes que représentent toutes les banques alimentaires au sein de la Fédération des banques alimentaires, la Banque alimentaire de Dordogne, c'est 600 tonnes. Bon, normalement, c'est 600 tonnes, c'est à peu près notre rythme actuel. 600 tonnes, donc, pour 7 000 bénéficiaires. Et alors, ce qui a été traduit un petit peu dans les propos de Jean-François, c'est qu'effectivement, on distribue par l'intermédiaire d'associations. On n'a jamais une distribution directe aux démunis. On le fait exceptionnellement s'il y a des gens qui ont une situation où ils ne sont pas en mesure d'avoir le dépannage par une association. Mais sinon, on est toujours effectivement en partenariat. Et ce sont donc 60 associations qui sont partenaires de la Banque alimentaire, qui sont adhérentes, c'est la Banque alimentaire de Dordogne d'ailleurs. La Banque alimentaire de Dordogne, c'est d'abord ses adhérents, ce sont donc d'abord 60 adhérents associatifs, ou CCAS d'ailleurs, pas simplement associatifs, et puis après d'autres adhérents, ils sont des personnes physiques. Il y en a une vingtaine à peu près à côté. Voilà. Donc voilà, il faut retenir 600 tonnes pour nous, et puis effectivement pour 8000 personnes concernées sur le département de la Dordogne.
Alors, vos bénévoles, le chiffre que vous nous avez donné est considérablement grossi à un moment de l'année, c'est-à-dire à la fin du mois de novembre, où vous avez un événement particulièrement important qui vous amène à vous montrer, mais qui vous amène aussi à collecter une partie des produits que vous distribuez.
Oui, alors effectivement, on a un rythme, bien entendu, de régulier toute l'année. D'abord, nous sommes ouverts hein, de façon systématique. Il n'y a jamais de clôture. Il n'y a pas de clôture printanière, estivale, hiver un petit peu des fois entre Noël et le premier de l'an. Et encore, c'est tout juste. Nous ne fermons jamais la banque alimentaire de Dordogne à Marsac-sur-l'Isle. On ne la ferme jamais. Pour toute l'année, il y a à peu près 40 bénévoles qui sont rituellement pour faire tourner la boutique, si je peux dire, pour faire tourner l'association. Ces 40 bénévoles, d'ailleurs, pour les tâches, comme on le disait tout à l'heure, logistique, tri des légumes, conditionnement, distribution aux associations. Après, il y a aussi donc le secrétariat, la cellule de gestion, la comptabilité, le suivi informatique des denrées. Voilà, c'est vraiment une logistique assez forte. Et alors, donc, pour là où Jean-François met l'accent, c'est sur l'opération particulière de la collecte de fin novembre. Cette collecte, c'est une date qui, nationalement, est déterminée pour le dernier samedi de novembre. Donc cette année, vendredi 27 et samedi 28 novembre, 800 bénévoles à travers le département seront répartis dans les grandes et moyennes surfaces. Il y en a 94 à peu près par an, 94 grandes et moyennes surfaces, dans lesquelles la banque alimentaire est représentée par les gilets orange avec banque alimentaire comme sigle. Et donc voilà, c'est une très très grande chaîne. On espère d'ailleurs pouvoir leur rendre un grand hommage cette année avec une réunion plénière qu'on souhaite organiser.
800 bénévoles à ce moment-là, sur 125 000 pour l'ensemble de la France, c'est la Dordogne n'a pas à rougir de sa représentation lors de cette collecte nationale. Alors, je voudrais maintenant aborder un petit peu une petite question. Est-ce que vous avez des salariés en Dordogne ?
Oui, alors nous avons 5 salariés actuellement, parce que c'est un petit peu fluctuant. Nous avons 5 salariés, mais qui ne sont pas tous à plein temps, qui représentent en gros 3 équivalents temps plein, 3 ETP.
Bon, là aussi, on peut dire que la Dordogne se caractérise par une économie remarquable, puisque 6 salariés par rapport aux 446 aux dernières nouvelles de l'organisation, c'est quand même très modeste. Maintenant, parlons un petit peu de vos moyens techniques. En France, si j'en crois les chiffres que j'ai pu récolter sur Internet, vous avez près de 100 000 mètres carrés d'entrepôts. Ici, à Marsac, vous avez un magnifique entrepôt qui a été construit grâce à l'aide de plusieurs partenaires. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette installation qui tranche quand même considérablement avec l'endroit où vous étiez installé auparavant pendant des années ?
Oui, alors c'est une très très longue histoire qui a démarré en 2008 et qui s'est achevée fin 2010. Il a fallu 3 ans pour la construire. La mairie de Marsac-sur-l'Isle, donc M. Jean-Marie Rigaud, en accord avec mon prédécesseur M. Garoute, ont œuvré pour, comment dire, pour se doter des bâtiments adapté à notre activité. Et l'entrepôt de Marsac, qui est donc sur le chemin du Clos de l'Eau, c'est après la route de l'Évêque, et ce bâtiment a été conçu exclusivement à destination de la banque alimentaire. Il a été pensé pour notre propre activité, pour répondre à tous nos besoins. Il a fait l'objet d'un financement multiple, mais donc M. Garoute et M. Rigaud ont eu besoin de frapper à de nombreuses portes pour arriver à ce local, donc ce qui fait 1100 m2, donc je vais rentrer dans les chiffres pour faire la comparaison avec le national, 1100 m2. Alors c'est pas que de l'entrepôt. L'entrepôt lui-même fait 500-600 m2, ce qui nous situe encore à peu près dans notre prorata national, si je peux dire. Mais c'est surtout le fait, ce qu'il faut accentuer, c'est surtout le fait que c'est un local qui est un petit peu climatisé grâce à un puits canadien ou puits provençal, on l'appelle un petit peu des deux. Ça nous permet d'avoir une température assez tempérée à l'intérieur. C'est très bien pour les denrées. Et voilà. Et puis, on a tous les moyens qu'il faut pour bien travailler. Plus l'équipement qui va avec, puisqu'on a fait un réseau informatisé pour qu'on soit en échange de fichiers directs. Donc, on n'a pas besoin de la clé USB qui se promène, etc. Voilà. Donc, on a des conditions assez satisfaisantes.
Du matériel, des chambres froides. Des transpalettes, des chariots élévateurs ?
Oui, ben y a tout ça, hein. Plus des véhicules, oui, vous avez à peu près tout dit, il faut rajouter aussi les véhicules de réfrigérés qui nous permettent d'aller chercher les denrées dans les meilleures conditions possibles, pas dans les meilleures, dans les conditions idéales, parce que nous devons, même en étant association, nous devons de respecter la chaîne du froid, de la maîtriser intégralement, et croyez-moi, c'est vraiment l'un de nos soucis permanents. Non, donc on s'est équipé on vient juste d'acheter encore un camion froid, un 3,5 tonnes, avec une cellule réfrigérée qui nous permet de transporter soit à plus 2, plus 3 degrés les produits frais, soit à moins 20 les produits réfrigérés, surgelés, pardon.
Je précise pour les auditeurs qui voudraient s'aventurer jusqu'à l'entrepôt aux installations de la Banque alimentaire de Dordogne, que vraiment ça mérite le détour, parce que c'est quelque chose d'impressionnant. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous situer la Banque alimentaire de Dordogne par rapport aux résultats nationaux concernant les collectes de produits et concernant la provenance de ces produits. Qui sont vos donateurs, autrement dit ?
Voilà, alors, si vous voulez, la Banque alimentaire se félicite d'avoir, mais surtout félicite plus que se féliciter, félicite les donateurs et félicite aussi un petit peu de nombreux mécènes. Autant on a mis en avant tout à l'heure en début d'entretien mon propre investissement en temps et autres, il faut aussi saluer qu'autour de nous, il y a énormément de générosité et beaucoup quand même de mécénat d'entreprise, de mécénat, voilà, énormément de compréhension et d'assistance à notre mission, pas entreprise parce que c'est pour un autre contexte. Bon, dans ce domaine-là, si vous voulez, nous rencontrons déjà l'aide logistique du transport classe de Notre-Dame de Sanilhac qui tout à notre demande, nous assure souvent des transports. Les donateurs, ce sont les grandes surfaces, les surfaces les plus importantes de la région de Périgueux.
Ça représente quelle proportion à peu près les donations, les dons des grandes surfaces, de la grande distribution?
Alors, si vous voulez, on a cité 600 tonnes. On a cité 600 tonnes de distribution totale au cours de l'année 2014. 2015 sera sans doute à peu près du même tonneau. Donc la répartition, elle est la suivante. C'est 270 tonnes qui proviennent, parce que c'est le point le plus important justement, qui proviennent de la ramasse matinale. Donc tous les matins, nos camions, les camions réfrigérés dont je parlais tout à l'heure, nous en avons trois maintenant, donc deux qui sont un petit peu anciens et un plus récent. Et tous les matins, ces trois camions, ou des fois tous les deux jours, mais on va dans les grandes surfaces des environs pour récupérer des denrées invendues. Et dans notre jargon, ça s'appelle la ramasse. Et cette ramasse représente 270 tonnes en 2014. Elle a représenté 240-250 tonnes, parce que 270 tonnes, c'était pas forcément tout consommable, mais à peu près 240-250 tonnes sur les 600.
C'est-à-dire un peu plus du tiers, et là, vous êtes dans la moyenne nationale.
Oui, voilà, exactement. On est dans la moyenne nationale. Là où on est peut-être un petit peu supérieur à la moyenne nationale, c'est pour la deuxième catégorie de denrées, c'est la provenance qui est financée par l'Union européenne. L'Union européenne, on est plutôt à 30%, alors que la moyenne est à 25%, si je ne m'abuse, ou quelque chose comme ça. 22,7%. Normalement, l'Union européenne, les produits, donc le FEAD, Fonds européen d'aide aux démunis, dont il a été question en 2013-2014, qui a été pérennisé, représente plutôt dans les 23% des appros. Bon, en Dordogne, on est un petit peu plus haut.
Et alors, les producteurs, quand même, est-ce que, en Dordogne, qui est quand même un département rural, est-ce que vous avez eu un apport des producteurs qui est aussi de l'ordre de celui de la moyenne nationale?
Non, je crois qu'on est plus bas. Oui, là, je vois, donc 28%, on est plus bas. Pour une raison fort simple, c'est que les départements où le 28%, donc si c'est une moyenne nationale, ça veut dire qu'il y en a même qui sont à 33-34%. Ce sont des départements souvent où l'agriculture a été très modernisée. Donc ça peut être des élevages laitiers, des élevages porcins. Bon, si je pense à la Bretagne, il y a une grande densité. Il y a d'autres régions comme ça, peut-être des régions de fruits et légumes, des régions de... En Dordogne, les producteurs ont souvent une taille... plus familial qu'industriel, donc ça explique le fait qu'on n'a pas autant qu'ailleurs.
Ça explique la contribution modeste des producteurs aux dons.
Mais par contre, c'est une source d'approvisionnement sur laquelle nous réfléchissons, parce que malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de l'aide caritative alimentaire. Bon, je pense qu'il faut c'est une aide, à mon avis, indispensable. Et la prospection est d'étendre notre approvisionnement à d'autres sources. C'est un vœu que l'on formulons.
Comment faut-il interpréter la part très modeste de l'État, qui tourne autour de 1,5% pour le pays?
Oui, alors c'est vrai que historiquement, quand en 1985, je crois, la loi Coluche a stimulé les pouvoirs publics pour qu'ils créent une aide européenne, parce qu'il y avait à l'époque des frigos qui étaient pleins de viande, pleins de lait, qui étaient un peu bondés. La demande de Coluche avec Jacques Delors à l'époque, ça a été surtout, bon, mais vider les frigos de leur viande et de leur lait pour en faire profiter les gens qui ont faim. Donc ça voulait dire que c'était une aide européenne, puisque c'était le... Voilà, c'était des surplus européens. Par la suite, il y a eu une adjonction d'une aide nationale, mais c'est vrai qu'elle a été toujours beaucoup plus modeste, et elle l'est encore. Bon, ceci étant dit, il ne faut pas oublier que le budget européen, là maintenant, c'est pris sur le Fonds social européen, l'aide alimentaire, alors qu'avant, elle était prise sur la politique agricole commune. Il ne faut quand même pas oublier que le Fonds social européen est financé par les États, donc c'est un peu le chien qui se mord la queue, quoi.
Oui, exactement. Mais enfin, j'espère quand même que de la part de l'État, vous êtes l'objet d'une bienveillance particulière.
Alors, en quel sens? Vous pouvez préciser la question.
Ouais, est-ce qu'elle s'exprime par une aide dans le domaine des formalités administratives, par exemple, qu'on vous simplifie la vie?
Oh, alors là, non. Pourquoi? Parce que le Fonds social européen... Bon, je ne vais pas médire sur l'Europe, d'autant que je suis profondément pro-européen. Mais les formalités administratives sont définies au niveau européen. Donc l'État, là-dessus, malheureusement, n'a pas de simplification. Il a une simplification lorsqu'il s'agit... Il peut avoir un effet de simplificateur lorsqu'il s'agit de négociations État-association. Effectivement, à ce moment-là, il peut. Hein. Mais sur le reste, non.
Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots des... produits que vous collectez?
Écoutez, les produits que nous collectons, comme base, notre but, c'est d'être dans une configuration d'équilibre alimentaire optimale. Donc, je ne vais pas les citer de mémoire, parce que de mémoire, je ne les ai pas, mais tant de lipides, tant de glucides, tant de protides. Ça, c'est... Voilà. On a pour cela, pour arriver à cet équilibre, on doit avoir aussi un équilibre entre les sources de protéines, viande, poisson, les sources de lipides, corps gras, que ce sont les huiles, les corps gras, charcuterie ou autres, et les fibres avec les salades, j'en passe et les meilleurs. Cet équilibre, on cherche à le viser. Ce n'est pas évident. Dans la mesure où on est dans une lutte, c'est notre charte de base, ça. Notre charte de base, c'est d'aller dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il est évident que ce que l'on va trouver dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, on va récupérer toutes les denrées. Il y a beaucoup de fruits et légumes que nous avons besoin de repréparer quand elles nous parviennent. On a beaucoup des noiseries également, mais ensuite sur les produits frais, les plats cuisinés, les charcuteries, le poisson, des laitages, on n'est pas toujours parfait. Donc ça fait partie de l'un de nos objectifs, ça, d'être toujours, attentif à essayer d'équilibrer le plus possible. On est pas mal, mais on n'est pas parfait.
Alors, cette incursion vers la ventilation des produits collectés m'amène à vous poser une question sur vos relations avec les associations qui poursuivent le même but que vous. Et en particulier qu'une association comme les Restos du Cœur. Est-ce qu'il vous arrive d'échanger avec ces associations des produits de manière à aboutir à une complémentarité et puis aboutir à l'équilibre nutritif que vous évoquiez comme un idéal?
Des échanges, oui. Ils n'auront pas pour but de rétablir l'équilibre, parce que si vous voulez, eux, ils ont un petit peu le même équilibre dans leur approvisionnement. Ils ont à peu près, ils ont eux aussi des produits européens, ils ont eux aussi de la collecte, ils ont eux aussi de la ramasse auprès des grandes surfaces. Donc ce sera pas de nature à, cette osmose-là ne sera pas de nature à rectifier ou à modifier ce qu'on appelle, nous, le camembert nutritionnel, c'est-à-dire la bonne répartition entre les différentes denrées alimentaires. Bon, par contre, oui, nous avons des contacts. Lorsqu'il y a des surplus ponctuels de denrées où on aurait du mal parce que les dates sont trop courtes pour la date limite de consommation ou autre, il nous arrive de rétrocéder effectivement des denrées au Resto du Cœur. Voilà.
Oui. René Le Goff, vous êtes un homme très occupé. Il y a une question que je voudrais vous poser encore, mais avant de vous la poser, je voudrais vous interroger encore une fois sur des aspects de l'action de la Banque alimentaire, en dehors de la collecte, de la lutte systématique contre le gaspillage, du tri, de la distribution, qui sont évidemment les points les plus importants. Une de vos actions, c'est accompagner. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette action d'accompagnement et nous parler également de votre action de formation, très très brièvement?
Effectivement, à force un petit peu de la Banque alimentaire, quelle qu'elle soit, Banque alimentaire d'Ordogne comme Banque alimentaire de n'importe quel département, de n'importe laquelle des 79, c'est d'être en partenariat avec un tissu associatif. Ça veut dire que nous pouvons être le relais pour des actions qui vont intéresser énormément de monde. Alors nous avons plusieurs actions justement d'accompagnement qui méritent d'être citées. Atelier cuisine. L'atelier cuisine, ce sont des ateliers où on met une personne que nous allons recruter prochainement d'ailleurs. Et actuellement, nous avons une vacance de poste. Et cet objectif, c'est d'aller avec au sein des associations de chez nos partenaires et de faire une cuisine collective à destination des gens démunis. Ce sont des ateliers qui sont assez durs à monter, mais quand ils sont montés, ils ont une grande efficacité, puis une grande et un grand intérêt, ils sont assez plaisants. Nous organisons aussi des ateliers maîtrise budgétaire, ateliers budget, où ce sont des gens de GRDF, ERDF, Électricité Gaz de France, des gens de l'ADIL et des gens du Crédit Agricole qui viennent d'une banque, qui viennent expliquer à des encadrants d'associations la maîtrise budgétaire, les outils, faire attention à aux déperditions d'énergie, enfin voilà, etc. Donc
en fait, vos ateliers cuisine et tout ce qui va autour, il s'agit d'apprendre aux gens à se nourrir mieux avec moins ou à utiliser plus rationnellement les produits alimentaires qui sont mis à leur disposition.
Oui, voilà. Le but, alors, de toute façon, c'est surtout de leur apprendre à bien et mieux équilibrer d'abord, premièrement, stimuler les cuisines, parce que le recours à la boîte de conserve et puis à la poche chips est un petit peu facile. Donc, déjà, modifier les comportements. Le deuxième objectif, donc, c'est équilibre alimentaire. Et le troisième objectif, c'est de valoriser aussi les produits de la banque alimentaire. Parce que parfois, on a des produits à la banque alimentaire qu'on a sauvés de la destruction. Et on a eu un exemple avec la polenta, et qui est très peu cuisinée, que les gens ne savent pas faire. Donc à ce moment-là, l'atelier cuisine, c'est pour inciter les gens à utiliser des denrées qui ont été sauvées de la destruction, mais qui ne trouvent pas preneur.
Mais connu, oui. Mais moi, je trouve que ça, c'est un aspect très important de votre action, parce que c'est tout ce travail d'éducation est d'une importance considérable, surtout quand on considère la situation d'une grande partie de votre clientèle, c'est-à-dire des gens qui, du fait de leur état d'absence de travail, de précarité, sont amenés un petit peu à négliger ce qui fait l'agrément de l'existence. Et donc, je crois que ça, c'est vraiment très important. Et alors, la formation, vous formez aussi systématiquement des gens qui travaillent avec vous aux différentes techniques. Vous l'évoquiez un petit peu avec les techniques de gestion budgétaire. Bon, j'imagine que vous avez des informations aussi pour les gens un petit peu à l'informatique, un petit peu à la... et puis les formations techniques.
Les formations, c'est quand même pas notre vocation d'être formateur, mais la Fédération des banques alimentaires met à notre disposition quelques outils justement pour nous. Nous en interne, non. On le fait, mais bon, très peu. En principe, bon, on essaye de s'auto-former parce que bon, on n'a pas toujours les compétences pour tout faire au sein de l'association banque alimentaire qui ressemble presque à une entreprise bientôt. Alors, les formations au niveau national qui sont quand même prépondérante, il y a une formation à l'écoute, c'est-à-dire la formation à l'écoute, c'est pour aider tous les encadrants d'associations, qu'ils soient bénévoles ou salariés, à la réaction en face de problèmes comportementaux, agressifs ou autres. Donc c'est formation à l'écoute, ça c'est une formation nationale, enfin une formation déclinée localement, mais assumée par le national. Autre formation, c'est formation à l'hygiène et à la sécurité alimentaire. Donc à ce moment-là, on fait des sessions ici à la banque alimentaire ou des fois en décentralisé pour attirer l'attention sur la propreté, sur qu'elle soit corporelle d'ailleurs, ou sur les locaux, sur les moyens de transport, etc. Et également le respect de la chaîne du froid et les nettoyages, etc. Donc là, il y a aussi une formation.
Je commence à comprendre, et vous aussi sans doute, chers auditeurs, pourquoi la famille de René Le Goff ne le voit pas très souvent ou pas suffisamment à son goût. Malgré tout, René, est-ce que vous avez d'autres, quelques dérivatifs, est-ce que vous avez d'autres passions que la gestion de la banque alimentaire ?
Oh oui, quand même. J'ai déjà une séance hebdomadaire que vous connaissez très bien, Jean-François Dupont, qui est le cours d'anglais. Quand il n'y a pas de réunion, ben j'ai plaisir quand même à aller me changer les neurones pour autre chose que la banque alimentaire. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, ben écoutez, je suis un terrien d'origine, donc jardinage, espace vert, lecture, voilà. Donc, c'est un peu mes hobbies. Et puis ensuite, avec mon épouse, ben écoutez, on aime bien aussi faire quelques sorties de voyage. Qu'on espère pouvoir augmenter. Voilà.
J'imagine que c'est nécessaire. Est-ce que, à l'heure actuelle, malgré tout votre dévouement et toute votre activité, vous arrivez à faire tout ce que vous avez à faire avec les bénévoles dont vous disposez?
Voilà, alors écoutez, là, merci pour cette question, parce que franchement, on ne peut pas se plaindre à la Banque alimentaire de la Dordogne parce qu'il y a quand même énormément de bonne volonté. Et puis aussi, croyez-moi, je salue mon entourage parce que même si le président est mis en avant, toute l'équipe qui est autour de moi, à quelque niveau qu'elle soit, apporte vraiment beaucoup et c'est vraiment bien structuré. Bon, néanmoins, c'est vrai qu'à la Banque alimentaire de Dordogne, la saisie comptable, s'il y avait une personne qui pouvait nous faire un petit peu de saisie comptable, c'est pas énorme, mais il faudrait que ce serait bien, ça soulagerait un petit peu. Secrétariat, il y a toujours aussi de l'activité de secrétariat qui serait souhaitable. Et chauffeur, voilà, ce sont surtout les profils qui sont les bienvenus. Après, quel que soit votre profil, en général, on arrive toujours à vous trouver quelque chose. Alors même si vous êtes chaudronnier, plongeur sous-marin, on trouvera quelque chose à la banque alimentaire.
Merci beaucoup René Le Goff et puis bon courage dans la poursuite de vos activités et puis dans la poursuite de la gestion de cette usine là qui est une véritable entreprise internationale, parce que j'ai vu tout à l'heure en discutant, en visitant un petit peu, que vous aviez des gens de différentes nationalités. Je parlais avec un monsieur qui venait de Tchétchénie et voilà. Donc si vous avez le temps, aventurez-vous à Marsac jusqu'à la banque alimentaire et peut-être que vous y resterez comme bénévole.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
J'ai dans l'œsophage un anthropophage qui avait dans l'idée de m'empoisonner. Disait petite tête, ôte-toi de la cuimette, je me suis résigné à le bouffer le premier mambo, miam miam. Mambo, miam miam. Mambo, miam miam. Mambo, miam miam. Sauvage ou pirate, on se tire dans les pattes et le moins malin peut crever de faim. Soldat ou artiste, on est tous des tristes cirés malheureux qui manque d'estomac. Mambo, miam miam. Mambo, miam miam. Mambo, miam miam. Mambo, miam miam. « dans ma garçonnière. Misère de misère, la femme du voisin se fait couler un bain. Quand la mienne se déhanche, j'ai le cœur qui flanche de voir les autres tudieux. La bouffée des yeux, mon beau miam miam. Mon beau miam miam. Mon beau miam miam. Mon beau miam miam. Viendra le jour, certes, où la gueule ouverte, comme ça, de but en noir, j'irai me faire voir. Je ferai des orphelines, et par la racine, je vous ferai les orties et les pissenlits. Mon beau miam miam. Mon beau miam miam. Mon beau miam miam. Mon beau miam miam. Miam.